inserimento alle spalle della difesa del Milan.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'avant-match, votre rendez-vous du vendredi pour évoquer les événements et les principaux, les faits marquants de cette semaine, à commencer par la Ligue des Champions qui se déroule en ce moment. Il y a un match de la quatrième journée, ça se poursuit ce soir et demain. On va parler également football africain à propos, vous le savez, des joueurs et également entraîneurs, sélectionneurs, équipes de l'année en Afrique, et on va bien entendu aller en Europe, à l'Italie, bien entendu, l'Angleterre avec un alléchant Tottenham Liverpool ce week-end avec un certain José Mourinho pour affronter Jürgen Klopp. La France, l'Espagne, retour sur les demi-finales de la Supercoupe avec le Real et l'Atlético qui vont disputer la finale. L'Atlético a sorti hier le Barça, 3-2, et le Real a pris le meilleur sur Valencia. Voilà, grosso modo, pour le sommaire, on fera un petit crochet par l'Allemagne. Hakimi, l'international marocain, meilleur espoir pour la deuxième année. Eh bien, selon la presse allemande, a été approché par le Bayern Munich. On va poser la question tout à l'heure à David Lortolari. Mais d'abord, le football en Afrique et également en Europe, la première partie. Hervé Penaud est avec nous. Bonsoir Hervé.
Bonsoir les amis, quel plaisir d'être en votre compagnie, comme toujours.
Le champion du monde des clubs et également l'équipe de Liverpool qui fait le chaud et le froid, qui souffle le chaud et le froid en ce moment, est avec nous également. C'est monsieur Aurélien Devernoy. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir Hervé, bonsoir à tous.
Dans un instant, on ira en Italie pour se retrouver Simone Rovera. Mais d'abord, on le sait, les meilleurs joueurs africains évoluent en Angleterre. Mahrez, on le sait, Mohamed Salah et également Sadio Mané. Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d'Europe et également du Mondial des clubs, finaliste de la dernière CAN. Un sacre mérité, il a reçu le prix cette semaine en Égypte. D'abord, Hervé.
On en avait parlé la semaine dernière, évidemment que c'est un sacre mérité. Alors, ça aurait été quand même gênant que ce soit pas lui qui obtienne cette récompense, hein, parce qu'il a fait une année tout simplement magnifique, hein. Du début à la fin, il a été présent sur toutes les compétitions, parce qu'effectivement la CAN, Riyad Mahrez a remporté la CAN, mais Riyad Mahrez, si vous voulez, a été, autant il est très bon sur la deuxième partie de saison, il a été un peu plus en difficulté à un moment avec Manchester City, n'étant pas un titulaire indiscutable, alors que Mané a été bon tout le temps. Il a été bon en Ligue des Champions, il était bon en championnat, il était bon avec son équipe sénégalaise puisqu'il a permis quand même d'atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'est pas rien. Et donc sur l'ensemble de l'année, il n'y avait rien à dire, c'était mérité. J'étais un petit peu surpris, allez, je ne vais pas dire gêné, que Salah ne se déplace pas, mais il aurait pu faire ce petit effort, sachant que l'année dernière, Mané, lui, s'était rendu au prix alors qu'il savait qu'il ne l'avait pas obtenu. Mais bon, par principe, hein, pour soutenir à la fois son équipier et puis d'une certaine manière, c'est pour mettre aussi en valeur, hein, ce titre de meilleur joueur africain de l'année. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein, autant Mahrez ne pouvait pas y aller puisque Manchester City jouait. Et d'ailleurs, Mahrez s'est fendu d'un tweet très sympa, hein, pour Mané, en lui souhaitant bonne chance. Et comme il avait marqué ce jour-là, il a dit, et puis voilà, j'attaque déjà, en gros, j'attaque déjà pour la saison prochaine pour le titre de meilleur joueur africain avec un but. Voilà, donc j'ai trouvé ça très drôle et très bien de la part de Mahrez.
Voilà, déjà une question d'un auditeur, Mohamed Ouldbda. Est-ce qu'il y a un problème entre Mohamed Salah et également Sadio Mané? On a déjà répondu à cette question. Aurélien, on voit souvent, bien entendu, on suit l'Angleterre, le football, Liverpool, qui écrase tout depuis quelques mois sur son passage. Sadio Mané s'est mérité les qualités de ce joueur, humble, discret, on le sait, mais fatal, entre guillemets, sur le terrain.
Mérité, d'autant plus que ce qui fait peut-être la spécificité de ce titre pour Sadio Mané, c'est qu'on a le sentiment qu'il a franchi un palier durant l'année 2019. Il était très bon déjà auparavant. Et c'est d'ailleurs pour ça que Liverpool n'avait pas trop hésité pour le recruter. Mais il n'était pas arrivé peut-être au summum de ses capacités de buteur. C'était ça peut-être qui est encore bloqué dans la panoplie de grands joueurs qu'avait déjà Sadio Mané. Et là, c'est vrai qu'en 2019, il a franchi un cap là-dessus. Il a marqué beaucoup de buts, des buts importants. Il a été très souvent décisif ou quasiment à chaque match de Liverpool durant toute l'année 2019. Et donc, évidemment, c'était difficile de ne pas le récompenser, même si Mohamed Salah a fait par ailleurs également une belle saison. Mais peut-être une saison en deçà de sa saison précédente où il avait été extraordinaire. Et puis, vous parliez de l'Angleterre qui accueillait des très bons joueurs africains et des meilleurs joueurs africains en ce moment, peut-être sur la planète. Il y a évidemment Pierre-Emerick Aubameyang, mais il y a aussi un joueur dont on parle peu souvent, mais qui progresse lui aussi de plus en plus, c'est Naby Keïta, qui joue lui aussi à Liverpool, le milieu de terrain guinéen, et qui lui aussi est en train de prendre une dimension plus importante au fil des matchs, au fil des mois. Alors là, il vient de se blesser, donc ça va un peu le ralentir, mais en tout cas, c'est vraiment un joueur à suivre, et je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, même si évidemment on a tendance à donner le titre de joueur de l'année plutôt à un attaquant, mais je pense que Naby Keïta pourrait à terme vraiment prétendre à ce titre d'ici peut-être 2 ou 3 ans.
Oui, justement, Naby Keïta, l'international guinéen, on en parlait l'autre jour avec Hervé à propos de l'international guinéen blessé et qui revenait très fort. On le sait, ces derniers mois, eh bien, il a été, on va dire, entre guillemets, sa marche a été, on va dire, il s'est dispersé ou bien empêché, en tout cas dérangé par une série de blessures. Mais on le voit, quelqu'un qui s'installe tout doucement dans une équipe avec un effectif riche comme l'équipe de Liverpool. Rapidement, côté sélectionneur, enfin, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, et surtout Jamal Belmadi, même s'il y avait la concurrence qui était rude avec l'Espérance et également la sélection sénégalaise. Rapidement, Hervé.
Absolument rien à dire, hein. J'en en avais déjà parlé aussi. C'est que Belmadi, s'il avait pas reçu le prix de meilleur entraîneur de l'année ou sélectionneur, alors bien sûr c'est toujours compliqué de comparer un sélectionneur et un entraîneur puisque ce sont quasiment deux métiers différents. Mais enfin, ce qu'il a réussi à faire avec l'Algérie, c'est phénoménal. Très très largement mérité. Et puis l'Algérie, évidemment, hein, c'était l'équipe de l'année en Afrique. Quand vous remportez la CAN, pour moi, il n'y a même pas de discussion possible, c'est l'équipe de l'année. Alors ce qui est assez drôle, c'est que lors de la présentation, la personne qui était préposée à annoncer la victoire de l'Algérie s'est légèrement trompée sur le coup, en parlant du Cameroun. Mais enfin, elle a vite rectifié l'affaire, et c'est devenu assez vite l'Algérie, puisque personne n'aurait compris, effectivement, le Cameroun devenant meilleure équipe d'Afrique cette année.
Voilà, le Cameroun, peut-être qu'il va organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et le CHAN aussi, même si on le sait, mercredi prochain, on désignera, on va arrêter les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le bonjour à Youssef Laroche et également Zindine Darich qui passe le bonjour à toute l'équipe à propos de la Ligue des Champions. 13 minutes, toujours 0-0 entre la Jeunesse sportive de Kabylie et le Raja de Casablanca. Un match de la 4e journée du groupe D. Dans ce même groupe, l'Espérance, le leader, se déplace ce week-end au Congo pour affronter Vita Club. Plusieurs matchs au programme cette semaine. Une 4e journée qui pourrait être décisive pour certaines équipes qui peuvent décrocher, en tout cas faire un grand pas vers la qualification. On pense à l'Espérance, le champion d'Afrique, sans oublier le finaliste de la dernière édition, l'Wydad de Casablanca, qui se produit en Angola face à Petro Atlético. Et puis également d'autres équipes. Rapidement, un petit mot sur cette journée, Hervé.
Oui, c'est une journée qui peut être décisive à plus d'un titre, hein, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui seront quasiment assurées d'être qualifiées, hein, si elles gagnent. Bon, alors, je ne parle même pas de TP Mazembe, qui est assez tranquille, hein, dans sa poule et devrait se qualifier. Mamelodi Sundowns aussi peut se qualifier directement là, s'ils réussissent un bon résultat et si Wydad gagne. Hein, pareil pour l'Espérance. Mais je pense que pour les Marocains, pour les deux clubs de Casa, c'est une journée importante, hein, parce que alors on va voir ce qu'ils vont réussir là contre la JS Kabylie. Hein, Casablanca, mais ils sont restés d'ailleurs sur place, hein, après le match de Coupe arabe, et une victoire, même un match nul, hein, je pense que même un match nul serait quasiment suffisant, parce que je ne vois pas V-Club battre l'Espérance de Tunis, même s'ils les ont accrochés à l'aller, il ne faut pas l'oublier, ce qui était une mini-surprise déjà, hein, parce que le V-Club n'avait pas marqué de points avant ce déplacement en Tunisie. Donc un coup contre Kabylie et contre la JS Kabylie, et à 2 journées de la fin, ce serait quand même quasiment une qualification assurée. Et pour le Wydad, c'est pareil, logiquement, ils se déplacent chez le plus faible adversaire de la poule, qui n'a pas encore remporté un match. Ils peuvent espérer que le Mamelodi Sundowns fasse le boulot contre l'USMA. Et là, dans ces cas-là, une victoire, et ce serait assurément, quasiment assurément, la qualification. Donc une journée importante. Il va falloir deux résultats à attendre, hein, le Wydad et le Raja, voir ce qu'ils sont capables de faire. Mais si ça se trouve, à la fin de cette journée-là, bah, ils seront quasiment assurés d'être en demi-finale de la Ligue des Champions africaine.
On va parler dans un instant de l'OM, on va parler de Cavani, l'international uruguayen du Paris Saint-Germain. Ça fait quelques semaines, on disait qu'il était partant, mais finalement, ça bloque toujours. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, l'Angleterre, Aurélien, avec un match très attendu, en tout cas alléchant sur le papier. Tottenham, avec José Mourinho, face à Liverpool, le solide leader et d'un certain Jürgen Klopp.
Oui, ça va être un match intéressant parce que c'est quand même une forme de revanche de la finale de la dernière Ligue des Champions. Hein, rappelons-nous, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc forcément, c'est toujours un match qui est attendu en Angleterre, hein, parce que Tottenham a envie un petit peu de se rattraper, de se venger, de remettre les pendules à l'heure. Et forcément, José Mourinho va probablement mettre une pression supplémentaire à ses joueurs. Alors le problème de Tottenham, c'est qu'ils ont pas mal de blessés pour cette rencontre, et notamment Harry Kane, qui est hors-jeu pour plusieurs semaines. Et donc c'est toujours difficile, on le sait, pour Tottenham quand ils ont pas leur attaquant de pointe disponible. Moussa Sissoko est blessé aussi. Harry Winks, le milieu défensif, est aussi incertain. Donc bon, c'est une équipe de Tottenham un petit peu diminuée qui va accueillir Liverpool, mais ça va être de toute façon un match intéressant. Et puis de toute façon, c'est un match important pour Tottenham parce que Tottenham a besoin de points pour rester au contact de la zone Ligue des Champions. Ils sont en ce moment à 6 points de Chelsea, qui est le quatrième et dernier qualifié direct pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc Tottenham a absolument besoin de d'engranger des points, et si possible rapidement, pour éviter de se faire lâcher trop vite. Pour Liverpool, bon, c'est un petit peu plus tranquille parce qu'avec 13 points d'avance sur Leicester et un match en retard, bon, ils ont quand même de quoi voir venir, donc une contre-performance à Tottenham serait pas catastrophique. Mais on a vu que cette équipe de Liverpool avait décidé cette saison de ne lâcher aucun match, même quand ils jouent avec leur équipe C, même quand ils jouent un petit peu diminué. Liverpool essaie d'obtenir le meilleur résultat possible. Pour l'instant, ils n'ont pas perdu cette saison, donc ça va être un match intéressant à regarder. Et puis ça va être aussi intéressant de voir ce que font les, on va dire, je mets des gros guillemets, mais les adversaires de Liverpool pour ce titre de champion d'Angleterre, Leicester et Manchester City. Leicester accueille Southampton et City se déplace sur la pelouse d'Aston Villa. Avec quelque chose d'intéressant du côté de Manchester City, et après je vous rends la parole, c'est que Sergio Aguero peut marquer contre Aston Villa son 175e but en Première Ligue, ce qui lui permettrait de rejoindre Thierry Henry à la 5e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Et ça serait mérité pour Sergio Aguero, qui décidément est on va dire un héros méconnu du championnat d'Angleterre et du football mondial. On le met assez rarement en avant.
En parlant de Thierry Henry, un ancien attaquant international français qui a brillé en Angleterre, Arsenal surtout, eh bien on parle d'un actuel champion du monde comme Thierry Henry. Il s'agit de Olivier Giroud, actuellement, on le sait, remplaçant souvent, il ne joue pas, et il pourrait quitter l'Angleterre, peut-être l'Italie, peut-être sous d'autres cieux. Rapidement, comme ça on libère Aurélien et ensuite Hervé, l'avenir d'Olivier Giroud. Hervé, juste Aurélien et après on va...
Ah d'accord, j'ai compris, d'accord.
Ok, merci.
Non mais on avait attaqué de manière totalement synchronisée, hein. C'était pas mal, hein. Donc oui, l'avenir d'Olivier Giroud, il se dessine quand même très probablement en dehors de Chelsea, parce qu'il joue pas avec les Blues, que Lampard lui accorde pas une confiance très importante, et qu'il a besoin de temps de jeu pour espérer être à l'Euro avec l'équipe de France d'ici 5-6 mois. Donc évidemment, il est un petit peu obligé de partir, et puis surtout Chelsea ayant vu son interdiction de recruter levée, et Chelsea ayant quand même un petit peu de moyens, ils ont décidé de faire un peu de place sur le poste d'attaquant de pointe pour essayer de recruter un autre joueur. Donc il y a pas mal de noms qui circulent en ce moment. Il y a Dembélé de Lyon qui intéresse beaucoup. Ça, Hervé pourra en parler. Il y a aussi un joueur brésilien qui avait joué à l'Inter justement et qui n'avait pas réussi à s'imposer en Italie. C'est Gabriel Barbosa qui est retourné au Brésil, qui fait une très très bonne saison du côté du Brésil et qui intéresse beaucoup également les Blues. Donc voilà, a priori Olivier Giroud va partir a priori du côté de l'Inter Milan, et il devrait y avoir quelques recrues du côté de Chelsea en attaque mais aussi en défense, puisqu'on parle également de Issa Diop, le joueur de West Ham, pour venir en renforcer la défense centrale de Chelsea.
Merci beaucoup Aurélien de Vernoy, notre monsieur football anglais. Dans un instant, l'Italie avec Simone Rovera à propos du match JSK Raja. C'est toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. L'avenir de Giroud, rapidement Hervé, et également des nouvelles de l'OM avec Rennes, notamment l'un des matchs du week-end.
Alors déjà, Giroud, le problème, c'est qu'à Chelsea, bon, on voit bien qu'ils ne veulent plus de lui, mais Lampard ne veut pas le laisser partir s'il n'y a pas de remplaçant. Alors c'est un petit peu compliqué. Ils ne sont pas prêts à lui faire de cadeau de ces 6 derniers mois. Et ils voudraient pas mal d'argent, parce que l'Inter, en fait, c'est très chaud avec l'Inter Milan. Mais ils aimeraient peut-être autour de 8 millions d'euros, ce qui paraît quand même énorme pour quelqu'un qui reste 6 mois et qui vous ne donnez jamais la chance de jouer. Donc ça va être peut-être plus compliqué que prévu. Ce qui est certain, c'est que lui veut partir. Le club veut bien qu'il parte. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci, il l'accepterait. Maintenant, il va falloir trouver un échange, mais pas Dembélé, parce que Dembélé n'ira pas à Chelsea, à Lyon. En ce moment, ils cherchent plus des joueurs qui veulent en vendre, même si, évidemment, après, quand vous avez des méga offres sur la table, parfois, vous consentez à des choix que vous n'aviez pas prévus au départ. Mais là, ce serait quand même compliqué, parce que Lyon est dans une mauvaise passe, et s'ils se délestaient de leurs meilleurs joueurs, ben là, il n'y a plus aucune chance de jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine, et ils seraient en grosse difficulté financière, faut le savoir. Enfin, en grosse, disons, en difficulté financière, ils ont besoin de la Ligue des Champions pour être un petit peu à flot tout le temps, puisqu'ils remboursent, n'oublions pas, leur stade encore pendant quelques années.
Voilà donc pour Olivier Giroud. Le football en France, bien sûr, l'OM, on va profiter pour passer le bonjour à toute l'équipe et les auditeurs. Samir Ouarab, qui pense que Liverpool va gagner le championnat, et également Zinedine Derich, on en a parlé tout à l'heure, sans oublier Samir Ouarab. Donc je parlais de l'OM, première partie plutôt satisfaisante et tentera de reprendre, même si ça a été difficile l'autre jour en coupe, mais là c'est la reprise du championnat.
Et oui, il y a un match capital ce soir à Rennes. Parce que Rennes, finalement, est aussi l'un des outsiders de cette Ligue 1, capable de décrocher une place pour la Ligue des Champions, qui talonne Marseille, parce qu'il ne faut pas oublier que s'ils ont un peu de points de retard, ils ont un match aussi en retard, et ils pourraient les devancer avec 2 victoires. Donc, ce match-là à Rennes va être un bon test pour voir l'aptitude des Marseillais à pouvoir se déplacer contre un des gros de ce championnat de France. Et puis, ça va être vécu de manière un peu particulière par les adversaires comme Lyon et Monaco, parce qu'il ne faut pas que Marseille s'échappe totalement, parce que la deuxième place serait quasiment assuré. Et s'il y avait une victoire de Marseille à Rennes, ça voudrait dire quand même que Marseille est très très costaud. Mais attention à cette équipe de Rennes, avec un entraîneur qui petit à petit prend ses marques et qu'on découvre, et qu'aujourd'hui on considère certainement comme l'un des plus talentueux du panel français. Et ce Rennes-là, il est capable de tout, et ce Rennes est tout à fait capable de s'imposer contre Marseille et d'être un vrai outsider pour cette place en Ligue des Champions, hein, sachant qu'on a 2 places, enfin la deuxième, troisième place, susceptible d'aller en Ligue des Champions avec un passage via les tours préliminaires. Donc les deux places qui seraient prises par Marseille et par Rennes, bah, ce serait assez dur pour des Monaco, des Lyon qui sont déjà très très loin et qui n'auraient pas besoin de ça, de voir des concurrents directs comme ça s'échapper aussi vite.
On va accueillir Simone Rovera, si on a le temps, Hervé, avec vous, on va évoquer l'avenir de Cavani. On va accueillir Simone, l'Italie, bien sûr, où Cavani a déjà évolué. Bonsoir, Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Et Cavani pour les supporters de Naples, serait un rêve, mais ce ne sera pas la son avenir, l'Italie. Ça, c'est une info mercato.
Et pour Olivier Giroud?
Pour Olivier Giroud, je suis convaincu au 99% que son avenir sera en Italie et bien sûr à Milan.
À partir de quand?
À partir, pour moi, de la semaine prochaine. Ça va être une chose qui va se faire parce que les négociations sont très avancées. Il y a déjà un accord entre les clubs et les joueurs concernant les salaires et la durée du contrat. Il faut trouver un accord avec Chelsea. Mais c'est en bonne voie selon mes informations et ça pourrait se faire donc déjà la semaine prochaine.
Voilà pour le mercato, le marché des transferts, le championnat d'Italie, on le sait. 2 équipes sont au coude à coude, la Juve et l'Inter. Même nombre de points, même nombre de victoires, même nombre de matchs nuls et une défaite pour chaque équipe. Là, cette semaine, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même un match contre la Roma et également l'Atalanta Bergame pour chaque formation, Simone.
Non, mais il y a vraiment un week-end avec 3 chocs incroyables en Serie A. Déjà, c'est un week-end historique parce que la Lazio et la Roma jouent les 2 à domicile avec 24 heures de distance entre l'une et l'autre. Donc demain soir, Lazio Napoli et gros choc déjà. Et Roma Juve dimanche soir. C'est quelque chose de, qui arrive presque jamais dans l'histoire du football italien, mais on sait bien qu'il y a l'Euro cet été et les trois matchs à Roma, donc les stades olympiques doivent être libérés un peu plus tôt pour les championnats. Pour revenir au championnat, bien sûr que ces deux matchs, même trois matchs, vont être crucial, décisifs peut-être déjà dans la saison. Parce que les déplacements...
Simone, on a du mal à vous entendre. Simone, on va essayer de vous rappeler, bien sûr, pour une meilleure qualité de son. Hervé est avec nous toujours. On parlait tout à l'heure d'Edinson Cavani, l'attaquant uruguayen. Pourquoi ça bloque ? Parce que à un moment donné, on a dit que c'était ficelé. Ça y est, l'Atlético Madrid était la prochaine destination.
Non, mais de toute façon, l'Atlético devrait être la prochaine destination de Cavani. Simplement, il aurait aimé partir dès cet hiver. Et là, de ce côté-là, Leonardo, d'entrée, a dit impossible. C'est-à-dire qu'il sera entendu avec l'Atlético pour partir dès cet hiver. Il n'y avait pas de souci, puisqu'il ne restait plus que 6 mois de contrat au Paris Saint-Germain. Mais évidemment, Paris Saint-Germain ne veut surtout pas se séparer d'un tel joueur. Parce que, autant vous avez 4 joueurs aujourd'hui qui ont pris de l'avance sur lui. Il n'y a aucun doute. Le quatuor qu'on connaît, Icardi, Mbappé, Neymar, Di Maria. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des blessures. Il y a tellement de matchs à disputer qu'il va falloir des doublures. Donc déjà, Cavani a été capitaine lors du premier match de l'année hein, contre Lina Montlhéry en Coupe de France. Alors avec une équipe bis, alors c'est dur pour lui, ça je le comprends tout à fait. Lui aurait aimé partir, ça se comprend tout à fait. Mais à un moment, il est bien payé, grassement payé avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement, il a perdu sa place. Mais ça, bon, on ne peut pas non plus en vouloir à Tuchel de préférer Icardi aujourd'hui. Il n'y a pas de scandale absolu. Donc, eh bien, Léo, il sera obligé de rester, même s'il aurait aimé partir. Et en juin, logiquement, il pourra rejoindre l'Atlético de Madrid si, évidemment, à ce moment-là, d'autres clubs ne viennent pas aux nouvelles, parce qu'on ne sait jamais. Hein. C'est le genre de joueur qui peut tout à fois avoir aussi des offres d'Angleterre. Donc attention, il faudra suivre, mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il s'était parfaitement entendu avec l'Atlético Madrid, que Simeone l'attendait. Donc ça semble quand même un choix, une destination très très probable pour lui à la fin de l'année. Mais les 6 prochains mois, il sera avec le Paris Saint-Germain.
Rapidement, Simeone, une minute pour finir ce qu'on disait à propos du week-end et de la journée très intéressante en Italie.
Je disais que la journée, donc, oui, ça va être intéressant, mais compliqué pour l'Inter parce qu'il joue à domicile face à l'Atalanta. On rappelle, meilleure attaque de la Serie A avec 48 buts. C'est quelque chose d'historique dans l'histoire du football italien. Seulement une équipe avait marqué plus de 48 buts après 17 journées. Donc, pour l'Inter, ça va être un match très difficile, surtout parce qu'il y aura un absent des poids, les défenseurs plus importants de l'Inter, c'est Skriniar, il est suspendu. Donc attention, ça va être pour moi un match domicile très compliqué. Par contre, je vois un Juve qui arrive bien en forme face à la Roma, avec un Cristiano Ronaldo surpuissant, avec beaucoup de certitudes en plus. Ça va être très difficile, mais très intéressant, et avec une Juventus bien lancée. C'est sûr quand même qu'avec Lazio Napoli, Juve, Roma Juve et Inter Atalanta, ce week-end va être un week-end magnifique à vivre en Italie. Et en plus, demain, Cagliari-Milan, avec la première titularisation d'Ibrahimovic depuis son retour en Serie A.
Merci beaucoup Simone Rovera, notre consultant pour le football italien, et à lundi prochain pour l'après-match. Merci également à Hervé Penaud pour toutes ses explications. La deuxième partie, eh bien, on ira en Italie, plutôt en Allemagne et aussi l'Espagne pour revenir sur la Supercoupe. On rappellera que 28e minute de jeu est toujours 0-0 entre la Jeunesse sportive de Kabylie et le Raja de Casablanca. C'est un match de la 4e journée de la Ligue des champions d'Afrique qui se poursuit demain samedi.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Rebonsoir, la deuxième partie de l'avant-match, on va parler football en Espagne et également en Allemagne avec David Lortolari et Frédéric Kermel. Bonsoir Fred.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
David Lortolari, notre monsieur football allemand, est également avec nous. Bonsoir David. David, dans un instant, il sera avec nous. Fred, il y a pas mal de réactions d'auditeurs. Il y a Ahmed Bey qui dit que le Barça éliminé, Fred dira que c'est la faute à Messi et que le meilleur joueur côté Barça était Umtiti.
Umtiti, c'est terrible parce que c'est quand même un champion du monde quand même. Ah oui, Umtiti, c'est un joueur titulaire de l'équipe de France champion du monde, quoi. Et c'est vrai que le niveau d'Umtiti, il est assez catastrophique. C'est un peu étonnant quand même que l'entraîneur Ernesto Valverde ait laissé l'anglais sur le banc. C'est vrai que l'anglais n'est pas extraordinaire en ce moment, mais enfin, il est quand même bien meilleur que lui, quoi. Il a... c'est étrange. Étrange décision, mais c'est vrai que ce qu'il y a de fou, c'est que le Barça a perdu 3-2 contre cette équipe de l'Atlético, alors qu'elle était supérieure, cette équipe du Barça. Et là, notamment avec un très bon Messi, avec un très bon Suarez, avec un Griezmann qui était pas mal. Mais sauf que défensivement, ce Barça-là, de toute façon, c'est pas que ce match-là. Par exemple, le Barça a encaissé 23 buts en Liga cette saison. Le Real en a encaissé que 12. Et l'Atlético n'en a encaissé que 12. Ça veut dire quelque chose quand même.
On rappellera que la Supercoupe se déroule en Arabie Saoudite à Jeddah avec la participation de 4 équipes, l'Atlético, le Real, le Barça, le champion sortant, et le FC Valencia, le vainqueur de la Coupe d'Espagne. Eh bien, le champion et le vainqueur de la Coupe d'Espagne ont été éliminés. On va y revenir dans un instant. Il y a bien entendu l'information avant cela. Eh bien, c'est que le Barça... Bien sûr, il y a quelques mois, on va dire plus d'un an, et qui voyait Valverde en dehors du Barça. Mais là, ce qu'on voit en ce moment, en ces dernières semaines en tout cas, parce que le Barça a souvent été sauvé par Messi parfois, mais toujours, quasiment toujours, par Ter Stegen, le gardien allemand blessé et absent, forfait. On l'a vu d'ailleurs hier, l'autre jour bien sûr, lors d'un match du championnat face à l'Espagnol de Barcelone. Neto n'est pas un mauvais gardien, mais... il se trouve que Ter Stegen réussit des miracles. L'information, c'est que, eh bien, le Barça a entamé des contacts, apparemment, avec des techniciens et surtout l'ancien joueur du Barça, Fred.
Oui, Xavi Hernandez. Alors, l'info est tombée aujourd'hui. Oscar Grau, qui est le directeur général du club, et Eric Abidal, l'ancien joueur français, qui est du Barça, qui est secrétaire technique, a profité de cette présence dans le golfe Persique pour aller faire un petit tour au Qatar. Officiellement, d'aller voir Dembélé, qui est blessé et qui est en train de se faire soigner au Qatar. Et il semblerait que ces deux dirigeants ont rencontré Xavi pour le tester. Pas pour maintenant, pas pour prendre le banc maintenant, mais pour remplacer Valverde la saison prochaine. Le Barça a confirmé qu'il y avait bien une rencontre avec Dembélé, mais le Barça n'a pas nié qu'il y a eu une rencontre n'a pas démenti qu'il y a eu une rencontre avec Xavi. Donc tout le monde sait bien entendu que c'est vrai, que si tout va bien, Xavi sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine. C'est vraiment celui que tout le monde attend. Voilà, il a passé ses diplômes, il entraîne au Qatar. Voilà, il voudrait recréer quelque chose comme Guardiola. Donc, l'expérience. Il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui se sont cassés les dents. On se souvient de Tata Martino. On se souvient, là, Valverde, c'est quand même un échec dans les grands rendez-vous. Donc, quelqu'un de la maison comme Xavi, c'est vraiment ce qui, en plus, calmerait les socios. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des élections au Barça l'année prochaine. Donc ça aussi, ça peut être important d'un point de vue politique, de faire revenir Xavi. Ça garantit pas mal d'adhésion pour le président Bartomeu.
Pour Ahmed Bey, le Barça a plutôt... le Barça a bien joué, l'Atlético a gagné. Zinedine Deriche, ça rappelle les années 80 avec Studio Sport. Eh bien, Studio Sport est toujours là, Pompier Bonneuil. Studio Sport, c'est chaque samedi et dimanche de 17h à 18h. Oussama Hanich, bonjour. Est-ce que le troisième but de l'Atlético n'était pas hors jeu? Et puis, le problème du Barça pour Ulbda, c'est le coach. Et également d'autres messages de nos auditeurs qui sont nombreux. On va accueillir David Lortolari, notre monsieur football allemand. Bonsoir David.
Bonsoir Hakim, salut à Fred et bonsoir à tous.
Avant de revenir en Espagne et parler de ce match entre le Barça et l'Atlético hier, parce que le Barça a été mené au score après avoir largement dominé cette équipe de l'Atlético. En termes de possession de balle, il y avait quelque chose comme 73% pour 27%, mais l'efficacité était cotée, même s'il y a eu la vidéo, parce que le président de l'Atlético à la fin de la rencontre avait dit on avait un problème, c'était l'arbitre. Là, il y a deux problèmes, l'arbitre et la vidéo, ça veut dire beaucoup de choses. Mais d'abord, avant de revenir en Espagne, une information concernant, voire même l'Espagne, le Real surtout, c'est David Hakimi, Achraf Hakimi, le défenseur international du Borussia Dortmund, on le sait cette semaine, a reçu le prix de meilleur espoir africain pour la deuxième année d'affilée. Mais l'information en allemand, c'est que apparemment le Bayern Munich a approché le jeune international marocain.
Alors, tout à fait. Il y a un intérêt clair et qui veut avoir des résultats tout de suite pour le Bayern, pour un défenseur latéral droit. On veut se renforcer, défenseur latéral de toute façon, mais plutôt droit. On veut se renforcer parce que on voit bien que Niklas Süle est absent de longue durée en défense centrale, que David Alaba dépanne très bien en défense centrale, mais que du coup, ça libère une place sur les côtés et ça affaiblit le Bayern à ce poste-là. Il y a Alphonso Davies, le Canadien, qui est très bon pour l'instant, mais qui est encore très jeune. Et puis il y a Lucas Hernandez aussi, qui peut jouer à ce poste, mais qui n'est pas encore rétabli pleinement. Et du coup, on cherche activement un défenseur latéral côté Bayern. Dans ce dossier, il y a un inconvénient majeur pour le Bayern par rapport au Real et surtout par rapport à Dortmund, qui lui aussi serait intéressé pour conserver en l'occurrence Achraf Hakimi, c'est que Dortmund doit être informé, c'est l'accord entre le Real et Dortmund, le Real et Dortmund doivent être informés de toute demande, de toute proposition, de toute offre faite par un tiers, par un troisième club. Et donc ça donne un avantage à Dortmund, parce qu'imaginons que le Bayern fasse une offre pour Achraf Hakimi, Dortmund peut contre-attaquer avec une offre légèrement supérieure. Donc c'est peu probable que le Bayern arrive à s'attacher les services de Achraf Hakimi, mais en tout cas, l'intérêt pour ce joueur-là, je vous le confirme, il est bien réel.
Voilà donc pour l'international marocain. On va revenir en Allemagne pour évoquer le Bayern Munich, parce qu'apparemment Sadio Mané ne devrait pas quitter la formation anglaise de Manchester City. Et puis également Lewandowski, les problèmes de l'international polonais. On y revient dans un instant. Rapidement, comme ça, on essaye de parler vers la fin de cette finale entre l'Atlético et le Real. Bien sûr, la première demi-finale, le premier match, le Real, ça a été à sens unique. Et le Real a largement dominé et aurait pu marquer plus face à Valencia. 3-1, le dernier but sur penalty pour Valencia, pour maquiller un peu le score de cette rencontre. Et puis, le Barça, hier, a été mené au score, a été incapable de garder le score. Ça arrive souvent ces derniers temps pour le Barça. Certains de nos auditeurs pensent que c'est Valverde, le grand, et le seul responsable. Mais il n'y a pas que Valverde, parce qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas à la hauteur, qui sont en petite forme.
C'est pas la faute de Valverde si Umtiti a été mauvais, enfin, si, de l'ami, mais surtout les erreurs de Gérard Piqué, qui était pas mal cette saison hein, quand même. Hein. Il a souvent fait de très très bons matchs. Il a parfois tenu la défense du Barça lui tout seul. Mais là, on peut pas accuser Valverde des erreurs de concentration de Gérard Piqué. Non, cette équipe de Barça. Alors après, ok, elle a perdu la Supercoupe, mais elle est quand même leader du championnat d'Espagne et qualifiée première de son groupe en Ligue des Champions dans le groupe de la mort. Donc c'est pas non plus catastrophique, mais c'est la sensation qui se dégage. Ce Barça qui la semaine dernière perd 2 points de 2 contre le dernier, l'Espagnol le dernier de la Liga, l'Anterno Rouge, éliminé par l'Atlético dans ces conditions, dans un match que l'équipe du Barça contrôlait. Oui, c'est des sensations, c'est de voir moins de jeux collectifs, et puis cette dépendance à Messi et à Ter Stegen, et tu l'as dit tout à l'heure, Neto, lui, fait pas de miracle. C'est un bon gardien, mais fait pas de miracle. Et Ter Stegen Et là, David pourra peut-être dire un mot. Ter Stegen souffre d'une inflammation à un tendon du genou depuis longtemps. Il ne veut surtout pas se faire opérer pour ne pas arriver tout juste pour l'euro. Donc là aussi, on a aussi le sentiment que la guéguerre avec Neuer n'est pas une très bonne influence pour les décisions que devrait prendre Ter Stegen. Parce que Ter Stegen aurait déjà dû se faire opérer. Je ne sais pas ce que tu en penses, David.
David.
Oui, je suis entièrement d'accord avec cette lecture, messieurs. On parle moins ces jours-ci, là, ces dernières semaines, de ce duel d'homme à homme et les yeux dans les yeux entre Ter Stegen et Neuer, parce qu'il y a Nübel, le gardien de Schalke, qui est arrivé dans le jeu et qui apporte un intérêt médiatique tout nouveau et tout récent. Mais évidemment, en arrière-plan, et dès que l'Euro, on va commencer à en reparler avec la reprise en Allemagne qui va intervenir à partir du 17 janvier. Oui, on va reparler de cela. Et évidemment, il y aura, je suis sûr que parmi les éditorialistes influents, les anciens joueurs, il va y avoir des voix qui vont s'élever pour certaines, pour dire la lutte mentale, le stress que ça peut apporter peut être effectivement un facteur embêtant pour Ter Stegen en particulier, parce que Neuer, lui, étant installé comme numéro 1, il y a encore autre chose, c'est encore un peu différent dans la logique. Mais je suis d'accord avec cette lecture, Fred.
Voilà donc pour le Barça, en petite forme, on le voit depuis le début de la saison, Ter Stegen qui a été décisif à plusieurs reprises en championnat et la saison dernière déjà l'un des meilleurs gardiens au monde. Et on a vu hier d'ailleurs, de l'autre côté, du côté de l'Atlético, sauvé à plusieurs reprises par le gardien. Et ce n'est pas la première fois que le gardien de l'Atlético s'interpose et prouve qu'il est l'un des meilleurs. D'ailleurs, on a souvent parlé de Neuer, on a parlé d'Oblak et on a parlé de Ter Stegen comme les meilleurs actuellement. En tout cas, le Real va affronter l'Atlético. Ça sera dimanche prochain. On va y revenir dans un instant. Quelques mots à propos du Bayern. On a parlé éventuellement de Dortmund. Mais le Bayern, parce qu'il n'est pas épargné par les blessures, plusieurs joueurs ne sont pas en forme en ce moment, David.
Oui, on a terminé le stage. Vous parliez tout à l'heure, et on voyage dans l'avant-match. Vous parliez tout à l'heure avec Fred des pays de quelques pays du Golfe. Le Bayern a terminé son stage au Qatar, à Doha. 14 entraînements au total ont été soumis aux joueurs du Bayern qui s'étaient déplacés, qui avaient fait le voyage, parce que d'autres sont restés à Munich, se sont entraînés notamment ce matin sous le soleil, même s'il faisait plutôt froid, mais sous le soleil à Munich. Et justement, il y a des blessés, c'est vrai, Hakim, mais il y a une satisfaction côté Bayern, et il avait un grand sourire ce matin. C'est évidemment Robert Lewandowski qui a repris tout juste l'entraînement, qui a commencé à retaper un petit peu le ballon, à faire quelques têtes, quelques dribbles. Et ben c'est l'anecdote qui a amusé en Allemagne, c'est que dès qu'il a tenté sa première frappe, ça a été cadré dans un petit but et c'est entré. Donc il a levé les bras comme s'il avait marqué un but en match, Lewandowski. On est content de son retour au Bayern et on sait qu'il pourra être apte pour le match de reprise de championnat qui sera le 19. Et ce sera un match très important puisque ce sera contre le Hertha Berlin. On en parlait dans une précédente émission. Berlin qui est en train de se renforcer avec son nouvel apport financier. Voilà, mais côté Bayern, c'est aussi pour ça qu'on cherche à se renforcer en défense. C'est qu'il y a des joueurs qui sont blessés et dont on ne connaît pas encore, pour certains, la date de retour. C'est vrai pour Lucas Hernandez, c'est vrai pour Niklas Süle, c'est vrai aussi pour quelques autres. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on essaye de se renforcer à l'occasion de ce mercato hivernal.
Zinedine Deriche qui nous dit que la JSK et le Raja, la première mi-temps, c'est fini. Ensuite, la rencontre, eh bien, 0-0 à la mi-temps pour ce match de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Le Raja, on le sait, deuxième de cette poule. Derrière l'Espérance, le champion sortant, le bonjour de Mohamed Ait Ali. Pourquoi la Supercoupe est organisée en Arabie Saoudite? On en a parlé la semaine dernière avec Fred Oussama Hanich, le pire début de saison du Barça depuis l'ère Rijkaard, et le Barça Oussama Hanich qui est le Barça avec Valverde cette saison, c'est 0 trophée. Le Barça, on en a largement parlé. On parle des finalistes, le match d'hier, rapidement. La vidéo, on a vu le Barça marquer 2 buts. Il y a eu un penalty aussi pour l'Atlético, une main de Piqué finalement. Eh bien, l'arbitre a à chaque fois refusé le penalty et les 2 buts. Par contre, le Barça, peut-être la presse aussi, qui a parlé à la 66e minute, peut-être un penalty en faveur du Barça avec, après une faute de Saúl sur Arthur Vidal, le joueur chilien. Bref, le Real Madrid, on a vu que le Real, qui était privé, on va dire, de son attaque, parce que Hazard n'était pas là, l'homme en forme du Real, Karim Benzema, blessé, Gareth Bale non plus, eh bien, Zinedine Zidane, qui ne fait pas que accompagner cette équipe, comme le disent certains, a organisé son équipe, il a innové, en quelque sorte, c'est bien ça, Fred, on peut dire ça?
Bah oui, c'est certain dont tu parles ne connaissent rien au football, parce qu'on ne gagne pas 3 Ligues des Champions de suite, 9 titres en 2 ans et demi, sans être un grand tacticien. Voilà. J'ai quand même l'impression, et tu as raison de le préciser, que petit à petit, les gens se disent « Ah bah ouais, peut-être que Zidane prépare ses matchs. » Non, mais moi, j'adore, il découvre... alors, il te manque Bale, il te manque Hazard, il te manque Benzema. Pas de problème. Je réinvente un nouveau milieu, je mets 5 milieux. Et sincèrement, par moment, j'ai vu le Barça de Xavi, d'Iniesta, de Busquets, le Barça de Guardiola qui dominait la balle. C'était impressionnant contre Valence, mardi soir. On a vu mercredi soir, on a vu un excellent Real Madrid, très fort défensivement, très fort physiquement, et puis avec un jeu collectif extraordinaire. Le meilleur joueur du Real Madrid, c'est le collectif. Et c'est la meilleure nouvelle qui puisse y avoir pour cette équipe. Et aujourd'hui, en Espagne, on dit que le Real Madrid est de nouveau candidat à gagner la Ligue des Champions et la Liga.
Et on a une impression, Fred, que le Real Madrid a encore une marge de progression. Rapidement, avant de parler de la finale.
Oui, parce que Hazard n'est pas là. La progression, c'est Hazard qui va l'apporter. C'est ça. L'un des meilleurs joueurs du monde qui n'a pas encore pu montrer grand-chose. Mais qui est très fort, on le sait. Donc pour cette deuxième partie de saison, Hazard qui devrait revenir à l'entraînement la semaine prochaine, et ben c'est ça le plus de qualité qui va arriver.
Et Wilbia qui pose la question, est-ce que Gareth Bale va jouer la finale? Apparemment non, la confirmation, l'international gallois devrait rater, il ne s'est pas remis de son rhume, c'est bien dit, non?
Oui, enfin, alors c'était infection du tracto supérieur. Enfin, il avait mal à la gorge, quoi. Moi, j'adore, parce que les communiqués de médicaux, c'est... Oui, il a mal à la gorge, voilà.
En tout cas, il n'y a plus de veto sur l'état de santé de l'international gallois, comme c'était le cas il y a quelques mois, quelques semaines.
Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Gareth Bale refusait qu'on communique sur ses blessures au nom de la loi espagnole qui interdit à un employeur de communiquer sur l'état de santé de ses employés.
Voilà, donc voilà dit. On a encore une minute trente. David, on est désolé. On va rester sur ce match, la Supercoupe. Le Real face à l'Atlético. C'est vrai que les fans du Real, du Barça et de Valencia disent que ces équipes qui n'ont rien gagné, eh bien, vont se disputer la Supercoupe. Mais bon, c'est une nouvelle formule. Il faut accepter. Il faut passer à autre chose. En tout cas, le Real a été largement supérieur à Valencia. L'Atlético a subi, mais a su revenir dans le match. Le Barça aurait pu tuer cette rencontre, surtout on a vu un Messi entreprenant, mais le Barça n'a pas su et l'Atlético de Simeone a enfin gagné cette équipe de Valverde. Comment on voit ce match le Real face à l'Atlético pour dimanche, Fred?
Si on regarde les statistiques, ce sont les deux meilleures défenses d'Espagne, mais c'est un Real Madrid qui va avoir une possession de balle de 70%, puisque on a bien vu hier soir que l'Atlético avait quasiment refusé le ballon. Il va essayer de jouer en contre, de gagner, de marquer en contre pour gagner cette finale. Ça va être très très compliqué pour le Real Madrid face à l'Atlético qui revient petit à petit. Je pense que Liverpool va avoir beaucoup plus de boulot que prévu en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, mais bon, le Real Madrid me semble quand même le grand grand favori. Parce qu'il y a une motivation extrême dans cette équipe, et puis ils sont quasiment imbattables. Il y a imbattable, c'est-à-dire c'est quasiment impossible de leur mettre un but. Le système défensif global du Real Madrid est assez exceptionnel en ce moment.
Merci beaucoup Fred Hermel, notre monsieur football espagnol. Merci à David Lortolari pour le football allemand. On se retrouve lundi prochain avec Jalal Bouzarara pour l'après-match. Notre ami Nagy à la réalisation et tous les auditeurs. Excellent début de soirée à l'écoute de Média.
Centralmente, ancora grande idea, vantaggio Juve, a sorpresa con un inserimento alle spalle della difesa del Milan.
Buona partita per il Milan, le nobbe, le
L'avant-match avec Hakim Tamim.